Bonjour, bienvenue à tous dans cet épisode 16 avec comme présentateur et ami Cyril Godefroy. Tu voulais.
Et Florian Denison.
Ça va, Cyril?
C'est un peu. Ouais, ça va très bien. On vient tous les deux du Salon du Livre où on a beaucoup, beaucoup travaillé, rencontré plein d'auteurs, ouais. Etc., etc.
C'était très riche en émotions et en rencontres.
Oui, on vous avait fait la promesse de faire des efforts pour récolter des choses, etc. Mais en fait, on a un peu échoué. Ouais. Nous avons failli. On vous a quand même préparé une petite interview avec Camille Mofidi de oui. chez Kobo Writing Life.
Tout à fait. Qu'on mettra à la fin de l'épisode, alors, c'est ça?
Voilà, on la mettra à la fin de l'épisode parce que c'est une interview qui concerne en fait plus les gens qui s'intéressent à l'auto-édition en général. Et aux livres audio enregistrés par les auteurs indépendants en particulier. À noter quand même que Kobo Writing Life a lancé un podcast. Tout le monde lance son podcast. Ouais. Kobo Writing Life faisait déjà un podcast depuis un certain temps, mais en langue anglaise, et il commence à en faire un en français. Alors, c'est un podcast mensuel.
D'accord.
Voilà, vous retrouverez les liens, comme d'habitude, dans les notes de ce podcast pour aller découvrir le podcast de Kobo Writing Life.
Très bien.
Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais. Je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'en fait, on peut passer l'interview de Camille parce qu'en fait, j'ai tout dit. Non, je dis des bêtises. Donc, c'est une semaine aussi où on n'a pas trop eu le temps d'écouter des livres audio.
C'est
parce qu'on parlait avec les gens. Donc, ouais. On a un peu ressorti nos vieilles robes.
Alors, à notre décharge, le Salon du Livre, et il y a quand même une toute petite part qui est consacrée aux livres audio, mais c'est pour nous donner un peu des excuses. C'est que pour le livre papier, ça, il n'y a pas de problème. Pour le livre audio, c'est toujours un petit peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus trouvé des millions de gens ou de choses à dire à l'occasion du Salon du Livre. Voilà.
Voilà, et puis par ailleurs, il y a quelques gros acteurs qui ont leur propre stand, comme Audible. Audible qui d'ailleurs ramène un studio, enfin ouais. un faux studio sur place au Salon du Livre. C'était l'occasion d'écouter et de rencontrer des comédiens qui font des livres audio. J'ai notamment discuté avec Ludmila Ruosso et Marie Bouvier, qui toutes les deux travaillent beaucoup pour les studios Audible.
D'accord.
C'était très intéressant.
Ah, pourquoi tu les as pas interviewés alors?
Mais j'ai pas. Voilà, c'était le jour de l'ouverture.
Ah,
on était
ouais,
tous en train de boire
ouais,
des vrai. Petits verres de jus de pomme, délicieux le jus de pomme. Voilà. Non, et de l'alcool aussi parfois. J'ai
avec modération. Pas
avec moi, voilà, modération. Et on n'a pas. Je les ai pas interviewés.
Ah, c'est un peu ça le Salon du Livre, c'est que on te croise. Tiens, t'es là et on fait beaucoup de rencontres, mais bon, on n'a pas tout le temps tout sous les mains pour que ce soit efficace en fait.
Ouais, j'ai même raté l'idée de faire un selfie avec Aurélie Valogne qui pourtant était venue sur le stand Amazon.
Ouais, bah,
alors il y en a d'autres qui sont pris en photo avec Aurélie, mais moi j'ai raté le selfie. Enfin, ouais, j'ai raté plein de selfies d'ailleurs avec tout un tas de. D'auteurs
c'est pas très grave.
Indépendants ou qui sont sortis de l'auto-édition.
On a fait un selfie ensemble, c'était déjà pas mal.
Oui, non, j'ai fait le selfie le plus important.
Ah, t'es gentil. Cyril, de quoi tu vas nous parler cette semaine?
Alors, cette semaine, je vais vous parler d'un livre dont j'avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière en avant-première, qui est Love Game 1, Tangled.
Ah oui, ah bah alors,
de Emma Chase, lu par Benoît Berton, quand même lu par un mec, parce que si je fais de la littérature sentimentale, je vais quand même pas lire un livre, en plus, lu par une femme.
Bah pourquoi, c'est quoi ce sexisme? C'est pas écrit à la première personne?
Alors, c'est un livre qui est écrit à la première personne.
Par
sur le côté technique, rien à dire, hein, très bien. Sur le côté interprétation, très bien aussi.
Et c'est pas une femme qui parle.
C'est un homme, et donc c'est un livre lu à la première personne, parce que l'accroche,
ouais.
c'est « Vous saurez enfin ce que pensent vraiment les hommes ».
D'accord, ok.
Donc, le personnage principal est un homme, Benoît Berton.
Très bien.
Qui cherche à séduire une jeune femme.
C'est original pour une romance, du coup. On va dire que
oui,
ça,
c'est
que
très
ça part
original
bien.
Et ça permet d'enfoncer quelques portes ouvertes ou de sortir quelques clichés.
Ah bah, mais j'imagine.
Mais quand même. Voilà, il y a pas mal de clichés, mais quand même, c'est assez bien fait.
D'accord.
C'est-à-dire que, voilà. Alors, cliché un peu aussi, j'ai l'impression, je suis pas un grand lecteur de littérature sentimentale ou de romance ou de new romance, vous classez ça dans le genre que vous voulez. New romance, je crois qu'on n'a pas besoin d'utiliser ce mot-là, mais bon, c'est pas grave, on l'utilise quand même. Je suis pas un grand lecteur, j'en étais resté à de la littérature sentimentale très très light,
ouais.
Très dans les sentiments. Là, ça va un petit peu plus loin que simplement les sentiments. Hein. On parle quand même de cul.
Oui, donc voilà, il y a des scènes explicites.
Voilà, scènes explicites. Donc c'est un peu cliché aussi dans le sens où Drew, le personnage principal, a une trentaine irrésistible, comme il dit si bien dans la description. C'est un beau gosse. Il habite à New York. Il bosse dans la finance. Il a une Aston Martin,
ouais.
Il a un appartement au dernier étage dans le penthouse d'un building.
Ouais.
Et tous les samedis soirs, quand il arrête de
bosser
et d'être hyper sérieux, parce qu'il est hyper sérieux le reste de la semaine, il se tape toutes les filles qui passent,
d'accord.
Jamais la même fille,
oui.
Une fille dans chaque bar, parfois des jumelles aussi... d'un seul coup, etc.
Ouais, bon. Ouais.
Donc c'est très très explicite. Ça m'a un petit peu surpris. Ça a donné pour moi lieu à des moments assez comiques où j'étais en train d'écouter des scènes
hot,
explicites. Mais alors vraiment très explicites au milieu de la place Bellecour. Tu vois,
ouais.
Tu sais là où tout le monde traverse entre la place Bellecour et la rue de la République.
Ouais.
Où il y a 40 000 personnes dans tous les sens.
Ouais.
Et là, t'entends exactement ce genre de passage.
Je prends mon oreiller chéri avec moi. Sur le chemin de la salle de bain, je ne peux pas m'empêcher de penser à la façon dont tout cela a commencé. Je vivais bien avant. J'avais une vie parfaite. Et puis tout a dérapé. Oh, vous voulez savoir comment? Vous voulez entendre ma triste histoire? D'accord. Tout a commencé quelques mois plus tôt, un samedi soir, tout ce qu'il y a de normal. Bon, normal pour moi en tout le cas. 4 mois plus tôt. Vas-y, baise-moi, c'est bon. Ouais, c'est ça. Vous voyez ce type en costume noir diablement beau? Ouais, le type qui se fait tailler une pipe par la rousse pulpeuse dans les toilettes. C'est moi.
Donc c'est comme tu peux le voir, c'est explicite. Et j'ai même fait remarquer à certaines personnes chez Audible que parfois il y avait des extraits qui étaient un petit peu trop explicites par
d'accord.
rapport à tout ça. Notamment, bon, c'est une série, ces romans de Emma Chase.
Oui, il y en a 5 ou 3. C'est quoi déjà le 6? Non, c'est combien? Il y en a combien?
Il y en a 4 pour le moment qui sont édités en livre audio.
Ah oui, oui.
Il pourrait y en avoir plus éventuellement, je ne sais pas. Moi, je me suis arrêté à 4 en livre audio. Le dernier étant sorti en 2017, en octobre 2017, je pense que c'est que 4 romans.
D'accord. Et qui produit ça?
C'est produit par Audible Studio.
Ah d'accord.
Donc c'est en exclusivité sur Audible.
Eh ben.
Audible.
Très bien.
Voilà. Alors, c'est un petit peu cliché par moment, mais bon, ça reste très sympa à lire, très frais à lire.
Il y a un peu de suspense en général, non? Il y a un peu des cliffhangers ou des trucs comme ça, non?
Oui, il y a du cliffhanger, il y a des scènes un petit peu... C'est la scène obligatoire. Il y a un peu des scènes obligatoires.
Oui, mais ça, c'est les codes, hein.
Oui, voilà, les codes du genre, avec les bouquets de fleurs partout, voilà. Alors, j'ai essayé de pitcher un petit peu tout ça.
Ouais.
Donc, Drew, c'est un personnage de cliché, mais il tombe sur une fille qui le renverse. Le renverse dans un bar. Bon, ça marche pas du premier coup, il essaie quand même. Il se dit bien, il se dit qu'il passerait bien un peu plus qu'une soirée avec elle.
Ouais.
Et évidemment, le surlendemain... Quand il arrive au bureau, ils accueillent les nouveaux, notamment des gens qui sont passés par l'université de Wharton, qui est quand même le haut du pavé des équipes. Et qui y a-t-il là-dedans?
J'aurais pu te faire le scénario avant que tu me le dises, je pense.
Mais bien sûr, évidemment. Voilà, donc elle est là et,
Ils sont au même endroit.
Ils souffrent, au même endroit, donc ils souffrent beaucoup parce que voilà,
ils peuvent pas se montrer.
Passer plus de temps avec elle.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc c'est un jeu de séduction. Mais en même temps, elle a déjà un fiancé.
Ah, ça, ça change de, d'habitude.
Voilà.
Ok.
Un fiancé qui est le seul mec qu'elle ait connu.
Oui, ça, ça change pas d'habitude. Du coup...
Donc, il y a pas mal de découvertes à faire au niveau oui. dans le lit, quoi, aussi.
Ouais.
Parce qu'il n'est pas, pas hyper...
Donc, c'est une romance qui se passe dans son milieu professionnel. Et c'est pour ça que
voilà.
ce qui fait le petit piment, c'est qu'ils doivent se cacher, en gros, c'est ça. En gros, ils ne se montrent pas, quoi. Ils ne montrent pas
oui,
leurs sentiments.
Oui, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent tard le soir, quand ils sont en train de bosser tous les deux, parce qu'ils bossent comme des chiens,
ouais,
quand même,
hein,
comme
ouais.
des chiens galeux.
Ouais.
Et pas mal de choses qui se passent aussi en dehors, dans des bars, dans des trucs.
Okay.
Ils font... des jeux à boire, des choses comme ça. Alors toi, t'es beaucoup plus à
au
fait des codes de la romance que moi.
Tout à fait. Ouais. Bah là, on est en plein dedans, hein, donc c'est bien.
On est en plein dedans, donc voilà. Alors après, bon, il réussit à la conquérir.
Et
il y a un moment où elle croit qu'elle qu'elle revient avec son fiancé.
Oui, enfin, bah voilà, oui, cliffhanger.
Mais ça finit bien.
Ouais. Alors c'est ce que ma question est la suivante, Cyril.
Oui.
Tu dis qu'il y a plusieurs tomes. Là, c'est quoi ? T'as lu quoi ? C'est une intégrale ? C'est quoi ? Parce que si
donc j'ai lu juste
bien,
le premier tome qui
ah bon
il dure quand même 7h23. Le deuxième
ouais.
tome est lu par la fille en question.
Ouais, ok, super. Un changement de point de vue.
Donc il y a un changement de point de vue.
Ouais.
J'ai lu juste l'extrait pour le moment, mais l'extrait c'est une scène explicite, donc je vais pas la passer.
D'accord. Se finit bien.
Même dans le tome 1, ça se finit bien, mais en même temps, une relation de couple comme ça qui évolue au cours du temps, donc c'est assez intéressant, je pense.
D'accord. Bon, très bien.
Parce qu'ils sont à chaque fois exposés à des épreuves. La première épreuve, c'est l'épreuve de la séduction. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve par rapport à la famille et par
oui,
rapport
oui.
à tout ce qu'il y a comme antécédent.
Ah ouais.
Voilà. Et puis après, il y a un peu des spin-offs autour d'autres.
Oui, oui.
Alors après, il y a des spin-offs autour des autres couples qui se sont formés.
Okay.
Pendant le premier épisode.
Ok. Bah écoute.
Voilà, donc c'est. Mais bon, donc je conseille aux personnes qui aiment ce genre de
bah oui, toi,
de romance.
Si t'étais c'est... la première fois et que tu dis que
ouais,
t'as
non,
plutôt
c'est,
apprécié, c'est quand même assez incroyable. C'est quand même. Ça veut dire que c'est bien.
Voilà, exactement.
Non, mais c'est vrai.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Ouais. Bah, moi, je vais vous
bon,
parler...
Si vous...
Oui, vas-y.
Vas-y. Non, excuse-moi.
Non,
j'allais faire l'introduction de ta partie, justement.
Ah, bah vas-y.
non, mais vas-y. Et toi, Florian, qu'est-ce que tu nous as sorti comme livre audio que tu avais écouté ?
Eh bien, figure-toi, on ne s'est pas concerté, mais moi aussi, c'est un peu une romance. C'est... Là, c'est Madame Bovary de Flaubert.
Ah, oui, mais c'est un petit peu plus dramatique.
Tout
Love
à fait.
Game 1, Tangled.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me c'est une partie intéressante du livre audio qui permet de redécouvrir des classiques. Et j'ai trouvé ça intéressant de choisir d'utiliser cette facette du livre audio justement. Et donc j'ai écouté Madame Bovary de Gustave Flaubert, lu par Alain Lawrence, avec un W. C'est 14 heures d'histoire. Hein. Donc, toi, t'es un petit peu... Ça te fait un peu mal, Flaubert, c'est ça, non ?
Ouais, Flaubert, ça me fait un petit peu mal. C'est pas exactement le genre de littérature que j'apprécie. Tu m'aurais parlé de Zola, tu m'aurais parlé de Balzac, etc.
Alors, voilà. Figure-toi.
Mais Bovary, franchement.
Franchement, ce livre.
Ça me fait chier,
c'est
quoi.
C'est juste une pépite, quoi. C'est juste génial. Et justement, tu parles de Zola. J'ai retrouvé, en fait, le maître de Zola, c'est Flaubert, hein, faut le savoir. Et ça se voit tout de suite, en fait. Quand j'ai écouté, lu, quoi, je me suis dit, ah oui, c'est le maître de Zola, c'est vrai. Et non, alors, figure-toi que j'ai.
Donc, ça, c'est une version moderne, en fait. C'est une version. C'est une lecture à la façon dont on le fait aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des livres audio qui étaient enregistrés en général sur disque, voire sur bande magnétique,
non,
dans les années 60, 70.
Ah, je ne saurais pas te dire.
Et qui sont encore présents dans les boutiques, hein, d'ailleurs. Il y a encore des choses lues par Gérard Philippe. Bon, c'est Gérard Philippe, hein, quand même. Sur la boutique Audible. Mais là, c'est une version.
Je ne saurais pas te dire.
Récemment
c'est, en tout cas, le son et la production est très bonne. Ça n'a pas l'air d'être un vieux truc, mais ça se trouve, c'est un vieux truc qui était très bien fait. Donc,
ça ressemble à quelque chose qui a été lu de manière moderne, quoi.
Ah oui, c'est sûr. Alors après, c'est Alain Laurence. Et justement, sa voix, elle est géniale pour ça, parce qu'elle est vachement désuète, en fait, dans son intonation. Ça fait un petit peu théâtral, mais ça colle parfait. C'est exactement ce qu'il fallait, quoi. Vraiment, vraiment.
Est-ce que c'est un comédien dont la voix est connue par ailleurs pour des adaptations ou des choses comme ça ?
Non. Adaptation, je ne sais pas, mais en tout cas, il en a fait un paquet, et notamment, il a lu les Valentin Musso. Donc, tu vois, c'est hyper récent. Donc, à mon avis, c'est...
Moi, j'ai essayé d'écouter des livres lus par Michael Lonsdale.
Ouais.
C'est le méchant dans Moonraker.
Ouais. Oui.
Et ben, c'est pas possible.
Non,
là, je vois son visage. Je vois son visage.
Non, là, je ne sais pas qui c'est.
J'ai besoin d'avoir un visage un peu inconnu quand je lis des choses comme ça.
Non. J'ai jamais entendu cette voix. Peut-être c'est sûrement comme tous, hein, c'est des comédiens, donc ils ont bien dû faire du théâtre ou un truc comme ça. Mais en tout cas, sa voix, elle est vraiment parfaite. La production est vraiment impeccable. Et sur l'histoire, oui, c'est...
Oui,
c'est...
vas-y, fais-nous un peu la critique littéraire de Madame Bovary. Je vois comment tu t'en sers.
En fait, c'est un livre sur l'ennui. Mais qui, moi, personnellement, ne m'a pas ennuyé du tout. Donc déjà, il faut savoir que Flaubert, il est précis. Les tournures, elles sont vraiment au couteau, sur le fil du rasoir. L'écriture est vraiment magistrale. Je veux dire, la langue française est vraiment sublimée par un type comme Flaubert. Parce que... Et c'est avec des mots simples, hein. On n'a pas besoin de son dictionnaire. C'est juste les tournures de phrases, elles sont excellentes, quoi. C'est tout est retranscrit, c'est vraiment à la perfection, c'est vraiment l'amour du mot juste. En dehors de ça, c'est très avant-gardiste. Je vais raconter un peu l'histoire. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez lu au collège ou au lycée, moi non. Donc je l'ai vraiment découvert là. Tout le monde connaît un peu l'histoire, mais je vais la répéter. C'est Emma Bovary qui est fille d'un fermier. Voilà, son père c'est un fermier et elle se marie avec le médecin Charles Bovary et elle espère un petit peu en étant avec un médecin de s'élever un petit peu dans la société et voilà, elle est assez contente et en fait il se trouve que Charles Bovary il a fait un maximum d'études et il travaille comme un fou mais ça reste. Il reste le médecin de campagne, quoi. Et lui, il adore son métier, il adore aider les autres. Et elle, en fait, elle a l'impression d'y avoir un peu perdu au change, quoi. Et en fait, ils vont à un bal. Et là, elle croise toute la haute société. Et là, elle s'évade vraiment en esprit, quoi. Et elle se dit, c'est ça que je veux, quoi. Je veux une vie de faste, de paillettes et de romantisme. Et alors que Charles Bovary, il l'aime vraiment, mais c'est un gars simple, on va dire. Voilà. Et qui est quand même middle class, on pourrait dire maintenant. Et, mais ça ne lui va pas. Elle s'ennuie à un moment. Enfin, elle a un enfant, elle ne l'aime pas forcément. Elle trouve sa fille laide. En fait, c'est hyper triste comme... Comme constat, en fait, sur l'amour. Et franchement, ce livre est super beau parce que les deux personnages sont attachants. Charles Bovary, on est tellement triste pour lui parce que Emma est assez belle et il est super fier d'être avec elle. Et elle s'ennuie, elle voit bien qu'il l'aime et qu'il est gentil, mais elle a plein d'hommes, hein, elle a plein d'amants. Qui lui promettent monts et merveilles et en fait qui se servent d'elle au final. Donc c'est assez triste et je trouve ça hyper avant-gardiste, quoi. Et sur les mœurs de l'époque, sur la société, sur un peu la bourgeoisie, comment ça se passe. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment assez incroyable et d'ailleurs j'ai fait des recherches et effectivement, Gustave Flaubert a été embêté, hein, par. par les, un peu les censeurs de l'époque, parce que franchement...
Ah, bah oui, lui et Charles Baudelaire, ouais. Ils ont eu un procès tous les deux.
Oui, voilà, exactement.
Napoléon
oui,
III.
Oui, c'était hein. L'Empire, ouais, exactement. Et il critique un petit peu d'ailleurs voilà, tout ça, un peu, c'est un peu déguisé. Mais les mœurs, on dit, franchement, on pourrait faire Madame Bovary aujourd'hui, en 2019, dans un film... C'est dans une romance, tu vois, c'est, ça pourrait être, je sais pas quoi, Escape Game, là, c'est quoi, non,
non mais... Je crois qu'il y a un film...
Ah, il y en a plein, il y a plein d'adaptations.
Ça me fait penser un petit peu, le bovarisme en cinéma, au film de Chabrol, avec cette bourgeoisie de campagne qui se fait chier à ras mort.
Ouais, je vois pas lequel, mais oui, ça doit être tiré du truc, de toute façon.
Ouais. Mais Chabrol, c'est un peu ça aussi, c'est le cinéma où...
Oui.
Bon, déjà, il descend bien la bourgeoisie, mais en plus, tu te retrouves avec cette bourgeoisie de province qui a une vie...
Ouais, un peu...
Un peu médiocre.
Ouais. Et alors, juste que... Ce que je voulais rajouter, qui est assez incroyable en fait, parce que nous, quand on lit des fictions, il peut y avoir des fictions voilà, historiques, polar historiques, il se trouve que ce que je trouve qui est absolument génial, c'est qu'on écoute l'histoire des mœurs d'une époque, mais il était contemporain de cette époque en fait. Donc c'est pas, on nous raconte pas un truc à l'époque victorienne, tu vois, c'est génial parce que c'est comme si c'était un reportage quoi. Quand il nous parle de fiacre, de comment ça se passe la médecine, il va en ville.
Mais oui, complètement. Et, je vois très bien ce que tu veux dire.
Tu vois, et
j'ai lu Piketty.
Oui.
Et Piketty utilise énormément Balzac comme référence pour savoir combien gagnaient les gens
voilà.
À peu près à la même époque.
Oui, parce qu'eux, ils racontent leur vie. C'est comme si on lit Olivier Norek sur les flics du 93. Bon, c'est une fiction, mais si on la lit dans 100 ans. Et ben, c'était vraiment ça.
Ça aura valeur de témoignage par rapport à un certain nombre de choses. Oui.
Et ça, franchement, on met son casque et on est transporté. Et j'ai vachement ressenti ça, en fait. Et pas du tout cette contrainte de lire un classique. Au contraire, j'invite vraiment tout le monde à revisiter les classiques. Parce que déjà, on n'a pas la taille du livre. On n'a pas les mauvais souvenirs qui ressurgissent, puisque on est passif en fait et on écoute quelqu'un nous raconter une histoire dont on se serait dit à l'époque oh là non je vais pas oh là là Flaubert oh là ça me j'ai trop tu vois j'ai trop peur
ça me barbe
et ben en fait non c'est quelqu'un qui vous raconte une histoire et en fait on lit quand même le livre et ça j'ai trouvé ça franchement génial. J'ai pris tout de suite derrière un Zola que j'avais pas lu, Le Ventre de Paris. Et je me suis fait un paquet de classiques et je trouve ça absolument génial. Et ça, je dis merci au livre audio parce que je n'aurais jamais pris un livre de Flaubert et pour le lire comme ça, Madame Bovary. Franchement, j'aurais jamais passé le pas, quoi.
Donc voilà. Bon, donc le livre audio est aussi une occasion découvrir les classiques si on ne les a pas lus. Lu par une lecture moderne, mais en même temps avec la vraie histoire.
Oui, c'est le vrai texte lu.
Le vrai témoignage lu sans une adaptation moderniste.
Tout à fait.
Qui pourrait déflorer l'intention première de l'auteur, qui par ailleurs écrivait très bien.
Ouais. On en écoute un tout petit extrait.
En gros.
Hein ? On en écoute un tout petit extrait juste pour voir l'interprétation de Alain Laurence.
Avec plaisir.
Souvent. Lorsque Charles était sorti, elle allait prendre dans l'armoire, entre les plis du linge où elle l'avait laissé, le porte-cigare en soie verte. Elle le regardait, l'ouvrait, et même elle flairait l'odeur de sa doublure, mêlée de verveine et de tabac. À qui appartenait-il ? Au vicomte. C'était peut-être un cadeau de sa maîtresse. On avait brodé cela sur quelques métiers de palissandre, meuble mignon que l'on cachait à tous les yeux, qui avait occupé bien des heures et où s'étaient penchées les boucles molles de la travailleuse pensive.
Alors, du coup, Cyril, ça t'a donné envie de t'écouter un petit classique ou pas, là ?
Comment dire ? On te repose cette question dans quelques semaines.
Ouais, je te lance un défi de que t'écoutes.
Oh non, mais c'est bon, j'ai des défis, j'en ai déjà plein tous les jours.
2019. T'as encore. T'as jusqu'au 31 décembre 2019 pour écouter un classique.
Les Trois Mousquetaires, ça compte, chef, ou pas?
Ouais, par contre, ça, c'est chiant. Alors là, tu parles de trucs chiants. Oh, voilà, Dumas,
oh,
alors là...
Je sais pas. Ouais, bon, donc... Non, je rigole. Mais
c'est énorme, oui, hein, Les Trois Mousquetaires. Hein. On a l'impression que c'est Athos, Porthos, Aramis, c'est rigolo. Mais c'est... Oh là là, c'est... Je crois qu'on a lu à l'époque un truc condensé. Hein. C'est énorme, c'est hyper long.
C'est possible, je sais plus. Mais oui, bah écoute, je relève le gant.
Très bien.
Mes crayons, je relève le gant. Bon, pour 2019, hein, j'ai d'autres choses à faire d'ici la fin de l'année. Bon,
en tout cas, tu m'as donné envie de lire, d'écouter de la romance. Donc,
oui,
je vais
alors,
faire ça la prochaine fois.
Ça me fait, c'est quand même cette histoire de romance, ça me fait pointer un défaut des boutiques en général et d'Audible.
Oui.
En particulier, c'est un manque de précision sur le genre.
Ah oui, mais enfin, il y a un très gros problème.
Il y a un gros problème, c'est que là, on a
sur
roman contemporain.
Ouais,
on a roman contemporain. Et si on veut trouver une vraie romance, ou une romance dans un genre particulier, etc., il faut qu'on aille voir chaque livre les uns à côté des autres. Sinon, on n'est pas capable de trouver. C'est vraiment un gros souci, particulièrement chez Audible.
Si vous nous écoutez, vous êtes une société.
J'en ai parlé.
Vous êtes une société Amazon. Mettez les mêmes catégories, faites la même arborescence et tout ira bien.
Bah, j'en ai autant vis-à-vis d'Amazon.
Ah mais attends, il y a quand même là Audible.
Mais c'est mieux.
C'est mieux. Science-fiction et thriller. Ah bah comme ça, là t'es sûr de trouver.
Une espèce de mélange des genres complètement improbables. Science-fiction, polar, thriller.
Bon, voilà. Donc Amazon, c'est peut-être pas parfait dans les catégories, mais enfin, il y en a quand même vachement plus.
Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine.
Marche. Merci de nous avoir écoutés.
Si d'ici là, vous appréciez ce podcast livre audio, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille.
Et de mettre un petit commentaire.
Ça nous fait toujours plaisir à nous contacter éventuellement, directement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Livre Audio. Ciao Florian, à
bientôt.
Salut
Cyril, merci à tous.
Bonjour, nous sommes sur le salon de Kobo Writing Life. Bonjour Camille.
Bonjour Cyril.
Alors Camille, tu te lances, enfin Kobo se lance aussi dans le podcast natif. Est-ce que ça fait partie d'une grande stratégie de Kobo sur l'audio justement?
Oui, effectivement, c'est en relation avec l'audio puisque Kobo Fnac s'est lancé dans l'audio l'année dernière en 2018 avec Orange. Et donc le but c'était effectivement de présenter le livre audio au grand public, de vraiment faire monter ce format auquel nous croyons beaucoup, qui intéresse aussi de plus en plus d'auteurs indépendants comme on le constate sur la plateforme Kobo Writing Life. Et donc il nous semblait assez logique finalement de faire converger à la fois notre catalogue audio qui est encore en cours de développement, avec tout notre travail sur la plateforme d'auto-édition Kobo Writing Life, et puis cet angle d'écriture et de publication qui intéresse finalement tous les Français, puisque les statistiques montrent que un Français sur trois minimum aurait un manuscrit dans le tiroir à sortir un jour. Et donc nous, on veut les aider à se lancer et à sortir leur manuscrit de leur tiroir.
Ce podcast natif Kobo Writing Life, aujourd'hui, quel est le contenu, quel est le rythme de publication, qu'est-ce qui se passe dans ce podcast et quelle est son adresse?
Alors, le podcast s'appelle Un livre dans le tiroir par Kobo. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast, à commencer par SoundCloud, iTunes, etc. Et nous allons publier un épisode chaque mois, d'une trentaine de minutes à peu près. Le premier épisode est sorti juste avant le Salon du Livre et nous sommes partis à la rencontre de Samantha Bailly, qui est une autrice qui a publié ses premiers écrits à 14 ans, 14-15 ans, enfin qui a commencé à écrire dès 14 ans. Elle a été publiée très tôt, là elle a 30 ans et elle a déjà 30 livres publiés, ce qui est quand même assez incroyable. Et elle a vraiment un profil très intéressant puisqu'elle a rencontré d'abord sa communauté de lecteurs en ligne Caroline via son blog. C'est là que les lecteurs ont commencé à la suivre. Ensuite, ils l'ont découverte à travers ses livres publiés chez les éditeurs. Et puis, par ailleurs, Samantha Bailly vient de se lancer en auto-édition avec son dernier roman qui est paru à l'automne 2018, qui s'appelle La Marelle, qui est disponible chez Kobo Fnac. Et donc, ça me semblait vraiment très intéressant de l'interroger à la fois sur son rapport à l'écriture, la manière dont elle a réussi à se faire publier, et son parcours vers l'auto-édition, ce qu'elle en attend, ce qui l'intéresse. C'est aussi effectivement un moyen de parler plus de son ouvrage qui s'appelle La Marelle dans le cours de l'entretien. Et puis aussi de parler un peu de la place entre auto-édition et édition traditionnelle, puisque Samantha Bailly fait partie de la charte des auteurs illustrateurs de jeunesse, dont elle était présidente jusqu'à il y a encore très récemment, et qu'elle prend une part active justement à toutes les discussions sur la place des auteurs et leur statut professionnel.
Merci. Est-ce que ça veut dire que tu penses que Samantha Bailly, par exemple, pourrait faire La Marelle en livre audio dans les mois ou les années qui viennent, disponible en livre audio sur Kobo Writing Life et disponible sur Kobo Audio?
Eh bien, pourquoi pas. En fait, quand j'ai rencontré Samantha Bailly, donc justement autour de La Marelle, elle expliquait très bien que pour elle, c'était aussi, on va dire, une phase d'apprentissage que de se lancer en auto-édition, que de faire un e-book. Elle a travaillé avec une graphiste pour sa couverture, pour la mise en page de son livre, aussi bien au format e-book que papier. Que voilà, pour elle, c'était vraiment très important de bien faire les choses et qu'elle est en train d'apprendre. Donc évidemment, là, elle vient de le sortir uniquement en numérique pour l'instant, mais il n'est pas exclu qu'elle s'intéresse à d'autres formats. Pourquoi pas le papier, pourquoi pas l'audio. Je dirais que tout ça participe aussi, je pense, d'une phase d'expérimentation pour elle, de voir ce qui est disponible pour les auteurs.
Merci beaucoup Camille pour cet entretien assez court, mais qui nous a bien permis de parler à la fois du podcast et du livre audio. On te reçoit à nouveau avec plaisir, justement, quand vous lancerez la plateforme livre audio.
Oui, bah justement, pour finir sur l'audio, je voulais juste rajouter qu'on est en train d'améliorer la plateforme Kobo Writing Life pour permettre prochainement aux auteurs de publier leurs livres audio, tout comme ils le font avec leur e-book aujourd'hui. Donc bientôt, les auteurs pourront avoir à la fois leur catalogue d'e-book et leur catalogue d'audiobook sur Kobo Writing Life. Voilà, pour nous, c'est, on va dire, la grande priorité de ce début d'année 2019.
Merci.